Kiwi, 10h01 on s'installe ensemble pour les deux prochaines heures à Boulevard 102.1. J'espère que vous passez un merveilleux jeudi jour de paye, même si vous êtes aux deux semaines, parce que c'était le cas aujourd'hui chez Leclerc Communication. On est aux deux semaines, puis à chaque jeudi, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est le temps de recevoir ma paye et de pouvoir payer les factures et la carte de crédit? Ou bien si j'étais encore dans marde pour une semaine? Eh bien, aujourd'hui, c'était l'heure de se payer les fameuses cartes de crédit, mettre de l'argent dans l'hypothèque et tout ça. Puis après ça, ben s'il en reste, on va pouvoir se gâter pour les deux prochaines semaines. 418-971-1021, c'est le numéro pour me rejoindre par texto en studio, n'hésitez jamais. J'aime toujours jaser avec vous parce que la plupart du temps, ben, je suis tout seul en studio. Fait que parler tout seul, c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant. Alors que si vous êtes là par texto, ben ça ajoute déjà pas mal au plaisir. Et si vous avez des questions aussi pour nos invités du jour, ben gênez-vous pas non plus. Dans une quarantaine de minutes, on va avoir Kevin Dubé, journaliste sportif au Journal de Québec. Le journal qui a appris que la Ligue canadienne de hockey évalue la possibilité de greffer la USHL à ses entités. Dans les Canadiennes, il y a la LHMQ, la OHL et la WHL, donc le Québec et les Maritimes, la Ligue de l'Ouest et la Ligue de l'Ontario. Et la USHL, ben c'est un petit peu l'équivalent, mais du côté des États-Unis. Fait que quelle forme tout ça pourrait prendre? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est réalisable? Pourquoi ça profiterait à la Ligue canadienne de hockey? Et aussi, ben, pourquoi ça profiterait du même coup à la USHL d'accepter de se joindre à la CHL? Ben, des questions pour le chum Kevin Dubé, qui est toujours sensationnel en ondes. On l'aime beaucoup. Également, dans une 10-15 minutes, on va discuter avec Micheline Germain, les présidentes de la Coalition pour la dignité des aînés, qui a sorti ce matin par rapport au premier budget de l'ère Mark Carney au fédéral. Et on déplore certains éléments. On parle de rendez-vous manqués pour les finances et la santé des aînés. Fait qu'en gros, on n'est pas satisfait de ce qui a été présenté mardi par le gouvernement du Canada. Puis ça nous mène à se poser la question, comme on l'a déjà souvent fait, j'ai l'impression... Pourquoi on s'occupe pas bien de nos aînés? On dirait que c'est pas la première fois qu'on parle du fait que nos aînés sont un petit peu délaissés. Et on va en jaser avec Micheline Germain de la Coalition pour la dignité des aînés. Comme d'habitude, Audrey Pinchot va passer faire son tour à 11h pour l'Open Mic. Pascal CV sera là aussi en fin d'émission. J'ai des meilleurs moments du show de ce matin à vous faire entendre également. Entre autres, Éric Duhem qui est passé nous voir. Et Pascal Renaud qui est un médecin, qui est président de, et là je veux bien le nommer, là, il est président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Et il est venu nous partager à quel point il ne faisait plus confiance à Christian Dubé. J'ai sorti les meilleurs moments de cet entretien-là. Je vous présente ça dans les prochaines minutes. Le temps de se faire un petit tour de nouvelles. Du côté de Lévis, au courant de la nuit ou très tôt ce matin, là, c'est selon, un peu après 3 heures, il y a une madame qui est allé sortir de l'argent à la Banque nationale et elle s'est fait attaquer par un jeune homme avec un couteau qui l'attendait et qui voulait récupérer l'argent qu'elle venait de sortir. La bonne nouvelle, ben, c'est que la vie a bien fait les choses. La dame a contacté les autorités, a donné une description du suspect et quelques minutes à peine plus tard, le kid de 23 ans de Lévis s'est fait arrêter. Il doit comparaître au Palais de justice de Québec. Là, aujourd'hui, on parlerait d'accusation de vol qualifié, mais aussi de proférer des menaces et d'entrave au travail des policiers. Fait que la bonne nouvelle, la dame n'a pas été blessée et également, elle a pu retrouver l'argent qu'elle s'était fait voler. Aussi particulier ce matin, la Sûreté du Québec qui demande l'aide du public dans l'enquête sur une agression sexuelle survenue le 26 août 2006 à Donnacona. On nous dit que c'est lors de la première édition du festival Donnacona au rythme du blues. Il y a un poste de commandement qui est établi aujourd'hui par les enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes majeurs. Et ce qu'on veut, c'est recueillir des infos, rencontrer des témoins pour faire avancer l'enquête d'agression sexuelle qui avait fait une victime. Puis on nous dit que l'enquête est toujours en cours. Fait que la SQ qui invite les gens qui auraient de l'info en lien avec cet événement-là à se présenter au poste de commandement jusqu'à 16h. C'est près du 192 avenue Saint-Jacques à Donnacona. c'est l'ancien bar chez Jack, parce que ce qu'on nous mentionne, c'est que le 26 août 2006, vers 21h45, la victime, qui était une dame âgée dans la cinquantaine à ce moment-là, se trouvait au dit bar chez Jack et avait commandé une bière qu'elle a laissée sans surveillance. Puis c'est par la suite que la victime a été amenée à quitter le bar et a subi une agression sexuelle. Fait que si vous avez des infos, la SQ qui veut vous parler. Respect citoyen qui fait volte-face ne demandera pas de recomptage dans le district Les Monts. Contrairement à ce que Stéphane Lachance avait affirmé lundi à Boulevard, il a dit à Radio-Canada qu'il n'ira pas de l'avant avec le dépôt judiciaire. Puis ça, ce que ça fait, c'est qu'Éric Ralph Mercier, candidat défait dans le district, va devenir chef de cabinet de respect citoyen. C'est ce qu'a annoncé M. Lachance, qui a au passage aussi confirmé une transition pour ce qui est de son entreprise. Fait qu'il va être vraiment chef de l'opposition de la Ville de Québec à temps plein. Le budget du cabinet de Bruno Marchand qui pourrait passer de 1,6 à 2,1 millions de dollars, c'est ce que nous rapporte le Journal de Québec ce matin. Respect citoyen, donc, à l'opposition, qui toucherait une enveloppe de plus d'un million de dollars. Pour ce qui est du dernier mandat, 3,25 millions étaient divisés entre les différents partis. 1,6 million pour Québec Fort et Fier, le parti du maire, puis le reste entre les autres oppositions qui se qualifiaient. Le journal qui indique que la loi prévoit que le cabinet du maire récolte les deux tiers de l'enveloppe qui serait probablement indexée en fonction de l'inflation, et c'est ce qui nous mène au chiffre de 2,1 millions. Tout ça qui sera précisé de ce qu'on comprend en décembre. Il y a une pétition pour que Val-Bélair se sépare de la Ville de Québec qui a maintenant récolté au-dessus de 500 signatures. Ça a été lancé par une certaine Vanessa Villeneuve via le site change.org sous le titre « Diffusion de Val-Bélair à la Ville de Québec ». Pétition qui parle d'entrée de jeu d'une réalité très frustrante vécue par les citoyens de Val-Bélair. On dit « Nos taxes montent en flèche, la valeur de nos maisons s'accroît, alors que plusieurs résidents n'ont même pas droit à un service d'aqueduc ou de transport. Non pas parce que nos quartiers bénéficient de nouveaux et meilleurs services, mais parce que nous continuons à payer pour des services qui profitent uniquement au reste de la Ville de Québec. » on va se reparler de ça un peu plus tard dans le show. L'émission JE diffusée ce soir à TVA qui va révéler un genre de nouvelle réalité d'hôtel tout inclus au niveau du Mexique. Tu sais, on entend souvent qu'au Mexique, si tu restes à ton hôtel, tout est beau, puis que t'as pas à t'inquiéter pour ta sécurité. C'est si tu sors, faut que tu sois prudent. Puis tu sais, je pense que faut quand même être rassurant dans tout ça puis dire que c'est encore généralement le cas. Mais il y a des cartels au Mexique qui ont vraiment commencé à intégrer tout ce qui se passe avec les hôtels tout inclus. Puis là, il y a des histoires de « faut que tu payes des taxes, sinon ben faut que tu nous autorises à vendre de la dope à chaque travailleur qui travaille. » Tu sais, il y a des histoires de même. Fait que JA va être bien intéressant à soir, puis on devrait avoir le temps de s'en reparler. Parce que là, je veux parler de Québec et la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui serait passé tout près d'une entente à deux reprises avant l'adoption de la loi spéciale sur la rémunération des médecins. C'est ce qu'a dit Lucien Bouchard, le négociateur de la FMSQ, l'ex-premier ministre du Québec, en entrevue à la presse. Ce qu'il dit, c'est que le gouvernement Legault avait accepté d'abandonner les sanctions financières prévues dans la loi pour plutôt mettre en place des mesures d'incitation basé sur l'atteinte de cibles de performance. Il y a un fonds de 150 millions de dollars qui aurait été envisagé pour offrir des primes aux médecins atteignant ces objectifs. Et là, ce qu'il lance, c'est que le ministre de la Santé, Christian Dubé, serait intervenu pour faire échouer les ententes en ramenant les sanctions au cœur du projet. Fait que Lucien Bouchard qui dit « Ouais, là, c'est vraiment de la faute à Christian Dubé, puis il est temps que François Legault prenne lui-même les rênes des négociations, parce que là, avec M. Dubé, ben ça ne fonctionne pas du tout. » Je vous mentionnais, puis on reste dans tout ce qui est loi 2, rémunération des médecins, que je voulais vous faire entendre Pascal Renaud, docteur Pascal Renaud, qui est président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Lui ne fait plus du tout confiance en Christian Dubé. Puis il l'a dit de façon assez imagée à quelques reprises ce matin. La confiance, là, est pas à 2 sur 10, j'ai l'impression. C'est pas mal plus proche du 0 sur 10. Puis c'est le son de cloche qu'on ressent là, généralement présentement chez les médecins. Puis ce matin, c'est une belle discussion qu'on a eue aux alentours de quoi? 7h20 dans Marceau le matin. Discussion qui est plus longue, là. Si vous voulez entendre en intégralité, je vous invite à vous rendre sur le blvd.fm ou l'application mobile Boulevard 102.1. Là, c'est un 5 minutes, un petit 5 minutes de montage que j'ai fait des meilleurs moments de cette entrevue avec Dr. Pascal Renaud, qui est pas de bonne humeur.
Un vol moral des
points de Max. Le point de Max, l'actu du jour avec une touche de la bouche.
10h17 dans le point de Max à Boulevard 102.1. S'il y a quoi que ce soit, 418-971-1021 par texto. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi que vous aimeriez m'entendre poser à notre invité qui est Micheline Germain, présidente de la Coalition pour la dignité des aînés. On va parler du premier budget qui a été déposé par le gouvernement Mark Carney. C'est mardi que ce budget-là a été déposé et depuis, plusieurs groupes épluchent. Certains sont satisfaits, d'autres trouvent qu'ils sont pas super bien servis par ce budget-là. Et du côté de la Coalition pour la dignité des aînés, on est sorti ce matin pour déplorer certains éléments. Madame Micheline Germain, présidente de la Coalition pour la dignité des aînés, bonjour.
Bonjour. Juste préciser que je suis la porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés. Nous sommes 5 associations de personnes aînées et moi, je suis la présidente de l'une de ces associations-là, qui est la REC, le Mouvement des personnes retraitées CSQ. Alors, je suis pas la présidente de la Coalition.
D'accord, merci beaucoup. Vous parlez de rendez-vous manqué pour les finances et la santé des aînés. Pourquoi?
Parce que, encore une fois, on a comme oublié qu'il y avait une bonne partie de la population qui est des personnes aînées. Dans certaines régions, on parle de 25 % qui ont déjà 65 ans et plus. Dans d'autres régions, ça touche même le 30 % de personnes de 65 ans et plus. Et pourtant, il n'y a pas de mesures significatives qui s'adresse aux personnes aînées. On sait que quand il y a eu été question d'augmenter la pension, la sécurité de la vieillesse, on s'était arrêté à 75 ans. On aurait souhaité que là, on prenne en compte l'ensemble des personnes aînées. Et encore dans les mesures qui s'en viennent, on parle de 75 ans et plus.
Bien, c'est ça. Vous déplorez qu'Ottawa ait ignoré la proposition du projet de loi C-319 qui visait à bonifier de 10 % la pension complète de la sécurité de la vieillesse pour les aînés de 65 à 74 ans. Comment on l'explique, ça? Que les montants soient plus élevés seulement pour les 75 ans et plus, alors que la situation présentement n'est pas plus facile pour les 65 à 74 ans?
On le comprend pas, nous, pourquoi. Le revenu des personnes aînées, là, c'est un revenu qui est pour la plupart du temps assez fixe, qui bouge pas, et pourtant le coût de la vie augmente beaucoup. Alors, ce qu'on dit, c'est ce serait important qu'on en tienne compte au moment où on prend des mesures, là. Ça s'est pas présenté encore une fois, et c'est pour ça qu'on est vraiment déçus à cet égard-là.
Sur le plan du logement, on sait de nos jours, c'est facile pour personne de se loger, puis malheureusement, il y a des aînés qui se retrouvent dans des grandes difficultés par rapport à ça. À quel point, sur le plan du logement, le gouvernement a laissé tomber les aînés avec ce budget-là?
Bien, c'est parce que l'argent qu'on va investir pour le logement, on l'offre de façon globale. Il n'y a pas un volet spécifique pour les aînés. Il y a des besoins particuliers pour les personnes aînées. Les personnes aînées vivent beaucoup avec de l'insécurité, même quand ils sont dans un logement qui est correct, ils sont inquiets de voir le logement, le prix du logement augmenter ou de se voir demander d'être obligé de quitter parce que on va reprendre le logement pour le rénover et le louer par la suite plus cher et à ce moment-là, la personne aînée n'aura plus les moyens de se l'offrir. Il y a une inquiétude importante qui est vécue par les gens, les personnes aînées. Avant, on parlait plutôt d'anxiété des personnes aînées. Et maintenant, on parle vraiment d'insécurité chez les personnes aînées par rapport au logement.
On entend beaucoup parler de maintien à domicile. À quel point c'est important pour un aîné de pouvoir rester à la maison, d'avoir un chez-soi. C'est vraiment quelque chose de primordial. Puis des fois, est-ce qu'on sent que pour le gouvernement, c'est pas assez une priorité?
Nous, à la Coalition, là, on prône beaucoup le maintien de l'autonomie de la personne aînée. Une personne qui est vieillissante, elle devient pas une personne vulnérable puis avec des besoins très grands rapidement. Ça se fait progressivement. Alors, c'est pour ça qu'on trouve que c'est important d'avoir des mesures qui vont nous permettre de maintenir la personne en autonomie. Et l'autonomie de la personne, ça passe par son lieu de résidence. La personne, là, quand elle vit dans son milieu où ça fait plusieurs années qu'elle est là, elle connaît son réseau, ses voisins, elle sait où est-ce qu'ils sont, son dépannage, sa pharmacie, elle est en sécurité si elle va prendre une marche. Donc, c'est important de permettre à la personne de demeurer le plus longtemps possible. Et ça, on peut y arriver grâce au maintien par domicile. Dans le budget du gouvernement fédéral, il y a un montant là qui va arriver aux provinces en termes de maintien à domicile, mais on l'offre le même montant à toutes les provinces, alors que la population en Alberta est beaucoup plus jeune que la population du Québec. Les besoins ne sont pas les mêmes d'une province à l'autre et on n'a aucune considération pour cet aspect-là dans le budget fédéral.
C'est-tu un problème, ça, que le gouvernement fédéral envoie des transferts aux provinces dans différents secteurs, mais sans nécessairement prendre compte des réalités de chaque province? Est-ce qu'il y aurait une meilleure façon de faire, à votre avis?
Bien, d'abord, il faudrait que quand on met des subventions, il faudrait qu'on les maintienne. Parce que souvent, il y a des subventions qui viennent du gouvernement fédéral vers le gouvernement des provinces. Et là, à un moment donné, le gouvernement fédéral ne poursuit pas sa subvention. Le gouvernement provincial qui a amorcé des éléments, souvent en confiant des responsabilités aux municipalités. Et là, oups, il n'y a plus d'argent qui arrive aux provinces. La province ne l'envoie plus non plus aux municipalités. C'est pour ça que les municipalités nous disent, ben aidez-nous à faire en sorte que les gouvernements puissent maintenir, quand ils ouvrent un programme pour développer du logement abordable, mais qu'on puisse le maintenir, parce que là, souvent, c'est pelleté dans le cours des municipalités, puis ils n'y arrivent plus. Alors, c'est comme si on se transfère le problème d'un niveau ou d'un palier à l'autre, là. Alors, une personne est née en bout de ligne, c'est nous autres qui payons le prix.
Ce qui est dommage avec un budget, c'est qu'on n'a pas la chance d'avoir les informations au préalable. Puis quand il est déposé, ben il est déposé. Puis c'est bien rare que le lendemain, on va revenir sur quelque chose quand des groupes vont sortir. Avez-vous quand même confiance, parce que vous invitez le gouvernement Carney à réévaluer ses priorités, avez-vous confiance qu'il y a quelque chose à faire à court terme ou va falloir attendre un prochain budget?
Mais on n'avait pas attendu le budget. On avait déposé un mémoire pré-budget.
Il y avait des demandes.
Pour faire connaître les priorités pour les aînés d'avance, avant le budget. Puis maintenant que le budget est déposé, on sait bien que c'est une grosse machine, là. Mais on va continuer à faire des pressions puis à essayer d'obtenir le meilleur pour les personnes vieillissantes. Ça, c'est important, là. C'est certain qu'on va pas laisser aller les choses comme ça. Mais le pouvoir, c'est pas entre nos mains qu'il est pour le moment.
Madame Germain, toute cette discussion-là mène à une grande question, puis j'ai l'impression qu'elle revient souvent, des fois avec des éléments d'actualité. Là, l'exemple, c'est le budget. Pourquoi on a l'impression qu'on s'en occupe pas de nos aînés? C'est-tu parce que c'est pas assez payant politiquement? Pourquoi le politique s'occupe pas assez de nos aînés?
Bien, vous savez, la question, on se la pose depuis très longtemps, nous, dans les associations d'aînés. C'est comme si, au niveau des paliers de décision, on n'avait pas vu venir, d'abord, le vieillissement, qui était tout à fait prévisible depuis très, très, très longtemps. Et là, on ne pourra pas continuer à réfléchir à des politiques sans tenir compte du poids du vieillissement sur la population. Et ça se fait ressentir, oui, dans le logement, mais ça se fait ressentir aussi dans le domaine de la santé. C'est comme si on avait ignoré ça, que les besoins seraient grandissants avec le vieillissement de la population. Et on ne pourra pas continuer longtemps comme ça, là. C'est incroyable comment... on dirait que... Et pourtant, les personnes aînées sont actives dans la société, là. Le bénévolat, c'est beaucoup des personnes souvent des retraités, souvent des personnes de 60 ans et plus qui font beaucoup de bénévolat parce qu'ils ont de la disponibilité, ils ont du temps. On sauve des emplois avec le bénévolat. Tout le réseau de la proche aidance, c'est tous des personnes qui font ça gratuitement. Puis si ces personnes-là qui sont dans le besoin n'avaient pas un proche aidant proche qui l'aide, ben probablement qu'ils se retrouveraient dans le système de santé. Donc il y a une partie importante d'une responsabilité sociale qui est prise par les personnes aînées. Et c'est comme si on n'en tenait pas compte quand il vient le temps de prendre des décisions. Du côté de l'approche aidance aussi, on pense qu'il y aurait besoin d'avoir du soutien et du répit pour qu'on puisse continuer à prendre soin de nos personnes aînées sans que ça devienne un poids lourd sur la société. Et quand je vous parlais du maintien de l'autonomie de la personne, mais si on est capable de maintenir la personne dans son logement ou dans sa maison le plus longtemps possible, bien plus tard cette personne-là va arriver en CHSLD. Ça va être un poids important aussi sur les CHSLD si on ne réussit pas à maintenir les personnes dans leur milieu de vie.
Madame Germain, en terminant, est-ce que vous avez souvent cette impression-là de ne pas être écouté? Là, on l'a dans le cas précis du budget de Mark Carney, puis de ce que je comprends de votre dernière réponse, oui, vous avez cette impression-là. Là. Mais est-ce que c'est la même chose souvent au provincial également?
Bien, ce qui arrive, c'est qu'il y a des beaux plans. Moi, je pense à la fierté de vieillir. C'est un beau projet. Mais sauf que quand il arrive le temps de mettre ça en action, en réalisation, c'est que ça n'atterrit pas. Il y a des belles discussions. On a eu des belles discussions avec Mme Bélanger, qui était la ministre déléguée aux aînés, qui vient de revenir d'ailleurs à cette fonction. Et on a tenu compte de ce qu'on disait au moment de l'élaboration de la politique pour le vieillissement des personnes, là, qui s'appelle la fierté de vieillir. Mais au moment, ça a pris du temps avant que le plan d'action arrive. Et maintenant, ben c'est long avant que on en ait les effets là dans les milieux où circulent les personnes aînées. Là.
Micheline Germain, rappelez-moi votre titre exact, question que je le scrappe pas encore.
Moi, je suis la présidente de l'AREC, qui est le mouvement des personnes retraitées CSQ, et je fais partie, on est l'une des 5 associations qui font partie de la Coalition pour la dignité des aînés, où il y a la QRP, la QDR, l'AAR, alors je suis dans l'association AQDER, là. On est dans des acronymes, c'est certain, mais on représente à peu près 250 000 personnes retraitées et aînées à nous 5.
Bien, Mme Germain, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci, au revoir.
Bye-bye. Donc, Mme Micheline Germain, et vous l'avez entendu vous parler de son titre. C'est important de parler de nos aînés. On en côtoie tous. Puis c'est vrai que c'est souvent un sujet qui revient dans les discussions. Le gouvernement ne s'occupe pas de nos aînés, de ceux qui ont bâti notre société. Puis au Québec, avec la population qui est vieillissante, ben on en a de plus en plus des aînés desquels on doit s'occuper, puis on devrait mieux s'en occuper. Mais malheureusement, ça fait pas partie des priorités. C'est-tu que c'est pas assez sexy comme promesse électorale de parler de nos aînés, puis même une fois élus, je sais pas. Belle discussion qu'on a eue ce matin par rapport à la Coalition pour la dignité des aînés qui est sortie ce matin pour déplorer le premier budget de Mark Carney. On parle d'un rendez-vous manqué pour la finance et la santé des aînés. La discussion avec Mme Germain qui se retrouvera sur le plvd.fm et sur l'application mobile Boulevard 100. 2-1. Au retour de la pause, on va jaser avec le journaliste sportif au Journal de Québec, Kevin Dubé, qui a appris que la Ligue canadienne de hockey évalue la possibilité de greffer la USHL à ses entités. Beaucoup de questions là-dessus. En attendant, pourquoi pas s'offrir un petit peu de Bernard Drainville, qui est en train de parler à l'Assemblée nationale?
Essentiellement hérité du fonds vert des libéraux. C'est leur surplus. Ils l'ont mal géré, le fonds vert.
En question principale. Alors, on passe à une question principale. Et pour ce faire, je reconnais le député de Laurier-Dorion.
Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, j'aimerais féliciter et saluer la nomination surprise de la députée de Berthier au poste de ministre de l'Habitation. Voilà les fleurs, maintenant les pots. Depuis longtemps qu'on parle du prix extraordinaire des loyers et... Longtemps qu'on en parle, mais aussi longtemps qu'on a l'impression que le gouvernement...
Ben, on n'a pas eu beaucoup de Bernard Drainville. Certains seront peut-être heureux de ça, alors que d'autres auraient aimé l'entendre davantage. Mais j'aimerais ça faire ça, aller faire un petit tour du côté de l'Assemblée nationale en direct quand ça a l'air de brasser. 88-971-102, aimez-vous ça? Les petites saucettes à l'occasion en direct à la période des questions de l'Assemblée nationale. Si vous aimez ça, ben on va continuer d'en faire une habitude dans le Point de Max. Au retour! Kev Dubé. On jase, oui, du sujet dont je vous ai parlé, là, les Canadiennes, USHL, tout ça. Mais bien sûr, tant qu'à avoir Kevin Dubé, on va jaser du Canadien aussi, qui joue ce soir face aux Devils du New Jersey. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard. Le Point de Max. h 37 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. C'est 4 degrés à Québec. On attend un petit 5 aujourd'hui avec 40% de possibilité d'averse de pluie ou de neige. Ce soir et cette nuit, moins 5. Elle est là, généralement nuageux. Demain, vendredi, on nous parle d'un moins 1 avec faible neige intermittente. Dans la nuit de vendredi à samedi, c'est 0 degré avec neige ou pluie. Samedi, 8 degrés avec de la pluie intermittente. Ça, c'est poche un peu. Après ça, ça revient à moins 6 au courant de la nuit. Là, on tombe vraiment là-dedans. Là. Les moins... On a été gâtés à la date. Là. On approche de la mi-novembre. C'est comme normal qu'à un moment donné, on ne puisse pas rester l'été tout le temps. Mais c'est vers là qu'on s'en va. Et là, on s'en va rejoindre l'ami Kevin Dubé, qui est en studio, journaliste sportif au Journal de Québec. Le journal qui a appris que la Ligue canadienne de hockey, la CHL, évaluait la possibilité de greffer la USHL à ses entités. La CHL, présentement, c'est l'HGMQ, la OHL en Ontario et la WHL dans l'Ouest. Dubé, première des choses, bonjour.
Salut Max.
Ça sort d'où ça, à base que là, la Ligue de hockey canadienne, qui est déjà bien implantée au Canada, j'ai nommé les trois ligues, là, à la fin de l'année, il y a le tournoi de la Coupe Memorial entre les champions des trois ligues puis l'équipe hôtesse. Là, pourquoi on veut... Puis c'est pas une surprise qu'on veuille jouer aux États-Unis, parce que dans ces tiers, il y a déjà quelques équipes aux États-Unis. On sait que la LHGMQ regardait pour ramener des équipes américaines au sein de la Q. Mais là, de vouloir greffer la USHL, ça, c'est nouveau.
Ouais, c'est nouveau. Puis ça vient avec... Tu sais, en fait, l'élément déclencheur, c'est il y a un an, quand la NCAA, qui est le circuit universitaire américain, ont changé leur règlement, permettant maintenant aux joueurs qui ont joué dans la LCH d'aller jouer dans la NCAA. Fait que là, il y a eu un changement du paysage hockey en Amérique du Nord total. Il y a des joueurs qui ont... Tu sais, puis Gavin McKenna, pour les gens qui le connaissent, c'est le prochain premier choix total du repêchage, a décidé de quitter les Tigers de Medicine Hat dans l'Ouest pour aller jouer dans la NCAA, qui peuvent offrir de l'argent maintenant aux joueurs. Il a quitté pour une somme d'à peu près 700 000 $. Donc là, tout le monde est en train d'essayer de revoir le paysage. Puis Bill Daly, le commissaire adjoint de la Ligue nationale, l'a dit au début de la semaine, c'est un nouvel ordre mondial dans le hockey junior. Et là, tout le monde essaie de voir sa place un peu, où est-ce qu'on se situe. Et il y a eu une grosse rencontre au début de la semaine dernière dans les bureaux de la Ligue nationale à laquelle ont participé les trois ligues, le président de la ligue canadienne, les commissaires des trois circuits de la Ligue canadienne. USA Hockey était là, qui est le Hockey Canada des États-Unis. Hockey Canada était là et la USHL. Le but de ça, c'était de parler de, bon, comment est-ce que on se réorganise pour s'assurer que personne se cannibaler, j'aurais envie de dire, qu'on arrête de se voler nos joueurs puis qu'on puisse le plus possible protéger notre produit. Puis l'une des idées, ben l'idée principale qui est sortie de cette rencontre-là, puis c'est pas une idée nouvelle, ça faisait quelque temps déjà qu'on en discutait, c'est d'ajouter la USHL, comme tu l'as dit, à l'entité de la Ligue canadienne. Parce que la USHL, présentement, tu sais, on a beaucoup parlé des joueurs qui ont quitté, puis je parlais de McKenna, il y en a d'autres qui ont quitté la Ligue canadienne, puis on a l'impression que c'est... Au début, on parlait d'une hécatombe là, de joueurs qui allaient quitter. Finalement, c'est pas nécessairement ça qui s'est passé. La Ligue canadienne était, j'ai envie de dire, relativement, entre guillemets, épargnée.
C'est qu'il y en a eu quelques-uns très, très, très
c'est
bons.
C'est de gros noms qui ont quitté. Puis je pense que ça, c'est la nouvelle réalité du hockey junior. Mais il y a aussi des joueurs américains qui ont décidé de venir. Des gars qui ont quitté le programme national de développement américain, qui sont venus jouer dans la Ligue canadienne.
Parce qu'avant, ils n'auraient pas pu venir jouer dans CHL.
Exact.
Puis aller universitaire américain après, c'était interdit.
Exactement. Puis des joueurs qui, normalement, par exemple, des joueurs comme Alexis Joseph, qui est le premier choix total du dernier repêchage de la LHGMQ, qui veut aller jouer dans la NCAA, mais avant les nouvelles règles, il n'aurait pas pu jouer dans la Ligue canadienne ou dans la LHGMQ. Là, maintenant, il peut le faire. Fait qu'il peut venir à 16, 17, peut-être 18 avant de quitter pour la NCAA. Donc, ces joueurs-là sont venus, ça aide le produit de la LHGMQ. Mais la USHL, c'est la grande perdante parce que la USHL, son but premier, c'était de développer des joueurs pour la NCAA.
Elle servait juste à ça.
Elle servait juste à ça. C'est une ligue où les jeunes Américains passaient, transigeaient avant de s'en aller... transitait plutôt avant de s'en aller vers la NCAA. Maintenant, ben là que... Puis c'est un circuit qu'il faut quand même c'est un point important, là. C'est un circuit qui est inférieur à ceux de la Ligue canadienne, ouais, en termes de calibre de jeu. Fait que là, maintenant, ben, les joueurs américains, ils se disent « Pourquoi j'irais jouer dans USHL quand je peux aller jouer dans la Ligue canadienne? »
C'est moins fort.
C'est plus fort, j'ai plus de visibilité. Donc, les joueurs américains ont décidé de venir ici. Puis là, ben, la USHL se retrouve sans trop d'identité. Et l'idée qu'on pense qui serait la meilleure pour la survie de la USHL puis pour le bien-être de tout le monde en Amérique du Nord, ben, ce serait que la USHL joigne les trois circuits canadiens.
Puis quand on dit joindre, est-ce que c'est que les équipes de la USHL, ceux proches de l'Ouest joindraient l'Ouest, ceux proches du Québec joindraient le Québec, ou il y aurait maintenant vraiment quatre ligues dans la CHL, la LHGMQ, la OHL, la WHL, et on ajouterait à ça une quatrième ligue, la USHL?
Ben, c'est ce qui est discuté présentement. Ce serait d'ajouter la USHL qui deviendrait comme une quatrième ligue à la Ligue canadienne, qui serait probablement plus la Ligue canadienne si on ajoutait les États-Unis. Le problème qui ferait changer de nom. On a parlé de la Ligue nationale de hockey junior, mais ça, on est encore très embryonnaire. Donc là, c'est ça. Puis la USHL compte 16 équipes, donc ce serait un circuit à part entière dans la Ligue canadienne, qui participerait à la Coupe Memorial à la fin de l'année. Donc il y aurait les champions de la USHL qui participeraient aussi à la Coupe Memorial. Et qui deviendrait à part égal un membre de la Ligue canadienne avec les trois autres ligues.
Mais pourquoi, ce que j'ai peut-être de la misère à capter, c'est pourquoi le calibre deviendrait meilleur en USHL si elle faisait partie de la CHL? Ce ne seraient plus les mêmes joueurs?
Non, ce seraient les mêmes joueurs. Puis ça, regarde, ça c'est un autre débat. Puis tu sais, il reste beaucoup d'eau à couler sous les ponts avant que ça se fasse. Le projet est là, est concret. Puis la USHL, je pense, c'est que c'est probablement sa seule option de survie.
OK.
Donc, puis à ça, ben, tu sais, après ça, il faudrait revoir. Bon, parce que présentement, chaque ligue canadienne a un territoire américain qui lui est attitré. Donc, il peut piger dans ce territoire-là pour attirer des joueurs. Ouais. Là, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on dirait, bon, la USHL possède tous les États-Unis, mais les trois ligues canadiennes gardent quand même un certain territoire puis peuvent attirer certains joueurs qui voudraient venir ici jouer au Canada pour X, Y raison. Par exemple, ben, je sais pas moi, un joueur américain de la région de Boston qui pense que les Remparts de Québec, c'est la meilleure option pour lui, ben, pourrait venir ici. Ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'ils soient discutées. Puis il y a plein d'autres choses. T'sais, la USHL, c'est pas une ligue qui est gérée de la même façon que les trois ligues canadiennes. Probablement qu'il faudrait qu'ils se mettent à niveau en termes de politique antidopage. Je sais que la Ligue canadienne a plusieurs formations qui donnent à ses joueurs des formations sur ce qui est d'actualité présentement, c'est les paris sportifs. Il y a des formations qui sont données de sensibilisation aux joueurs. T'sais, il y a plein de choses en termes de budget d'opération. C'est pas toutes les équipes. On parle beaucoup du Steel de Chicago dans la USHL, qui est comme le gros programme, qui est un peu les Knights de London de la USHL. Mais c'est pas tout ça. Fait qu'il faudrait qu'ils se mettent à niveau là. Puis après ça, ben, il faut quand même aussi démontrer qu'ils seraient capables d'attirer des gens. Là, la Ligue canadienne ne prendra pas une ligue qui va mourir parce qu'il n'y a personne qui va voir son produit.
Ça reste une business, là.
Ça reste une business, absolument. Fait qu'il faudra que les propriétaires, première des choses, acceptent de joindre, les propriétaires de la USHL acceptent le projet. Puis après ça, qui démontrent qu'ils sont capables d'atteindre les standards de la Ligue canadienne. Puis même en termes d'installation, puis de gym, puis de tout ça, tu sais, il y a beaucoup de choses à faire. Ça serait des investissements assez importants pour les équipes de la USHL. Mais rendu là, c'est est-ce qu'on investit ou on meurt? C'est un peu ça le dilemme.
Je veux qu'on va rester un peu dans le sujet Canada-États-Unis. Je veux qu'on parle un peu du cas Nathan Lecomte, qui a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières semaines. Le gars était le meilleur pointeur des Saguenayens de Chicoutimi, puis a annoncé qu'il quittait les Saguenayens de Chicoutimi. Sur Twitter, c'est son agent qui a partagé qu'il s'en allait rejoindre justement une équipe de la USHL. Mm-hmm. Puis là, finalement, coup de théâtre, il revient à Chicoutimi. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non seulement il revient à Chicoutimi, mais il dit après ça dans les médias qu'il n'a jamais eu l'intention d'aller aux États-Unis.
Alors que c'est son propre agent qui a dit qu'il s'en allait là.
Et son père qui travaille. Son agent, c'est Alan Walsh, pour ceux qui le connaissent. C'est l'agent de Jonathan Huberdeau, de Marc-André Fleury. C'est un agent qui est très coloré puis qui n'a pas peur d'utiliser les médias sociaux pour faire avancer ses propres intérêts. Il l'a fait à quelques reprises avec Marc-André Fleury puis Huberdeau notamment. Et le père de Nathan Lecomte, c'est Éric Lecomte, travaille pour Alan Walsh en tant que conseiller pour la firme Octagon. Puis son père, quand c'est arrivé, j'avais contacté son père, puis il m'avait dit que c'était une décision personnelle de Nathan qui voulait vivre l'expérience américaine. Que c'était
clair que c'était ça. Là.
Ben écoute, je veux dire, à un moment donné, un plus un, ça fait pas trois, là, tu sais. Mais là, après ça, il revient, il y a un point de presse, puis là, Nathan Lecomte revient, puis lui, il dit que au départ, il a quitté pour des raisons personnelles, des raisons de santé mentale, il avait besoin de prendre une pause. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, c'est difficile à savoir. Il y a probablement un mélange de tout ça. Ce qu'on me dit, c'est qu'au départ, le jeune a vraiment quitté pour des raisons personnelles. Ensuite, est-ce que son agent a utilisé les médias sociaux puis la menace de la USHL pour détourner l'attention? Puis ça, c'est une des choses que j'ai entendues.
Est-ce qu'Alan Walsh a fait tout le contraire, finalement?
Est-ce qu'il a utilisé les médias sociaux pour détourner l'attention de la santé mentale de son joueur? Ça a juste créé une bombe encore plus. Puis je suis pas sûr que c'est la meilleure chose pour la santé mentale d'un jeune se faire traiter de mauvais joueur d'équipe puis de lâcheur puis tout ça, tu sais. Écoute, c'est extrêmement difficile à savoir. Il y a des gens qui me disent que oui, il a vraiment eu l'intention d'aller dans USHL, puis finalement, il s'est peut-être rendu compte que c'était pas la meilleure. Parce que là, lui, c'est un gars qui veut être repêché dans la Ligue nationale, qui veut jouer. Il n'a pas été repêché l'an dernier, ça l'a un peu dérangé. Il veut jouer dans la Ligue nationale, ou en tout cas, il veut être repêché. Puis là, ben, les recruteurs regardaient ça, puis ils se disaient, OK, il y a 10 games de jouer, c'est le meilleur pointeur de l'équipe. Les Saguenay, c'est pas une équipe de bas de classement. Ils peuvent gagner cette année.
Oui.
Puis lui, il s'en va. Il va faire quoi avec nous autres quand ça ne tentera plus de jouer?
Puis il s'en va dans un calibre inférieur on l'a plus. Dit. La USHL est en bas de la LHMQ en termes de calibre.
Exactement. Fait que c'est plate parce que ça, c'est mon opinion très personnelle, là. Je pense que le jeune, en tant que tel, a été mal conseillé. Et il s'est retrouvé dans une situation impossible, un espèce de conflit de loyauté entre son équipe junior et les conseils de ses conseillers. Puis moi, ce que j'ai pas aimé, pour être super honnête, c'est de le voir arriver à la conférence de presse seul, avec entouré de Yannick Jean et de Richard Letourneau de Saguenay, mais personne de son entourage qui était là, alors que c'est eux qui l'ont lancé en dessous de l'autobus.
Un agent ou un membre de l'agence aurait dû être là.
Ben, au moins pour faire le point, tu sais, puis parce que c'est eux qui l'ont lancé en dessous de l'autobus, là, puis qui l'ont mis dans le pétrin, il n'y a personne qui était là pour le backer. J'ai trouvé ça un peu plate. Mais la bonne nouvelle, c'est que, ça reste que Nathan Lecomte, c'est un excellent joueur qui revienne dans la ligue de hockey junior maritime Québec. Ça peut pas être une mauvaise nouvelle. Il semble avoir bien joué. J'ai évidemment pas regardé les matchs, mais il a fait quelques points en fin de semaine passée. Donc, espérons pour lui et pour ses coéquipiers aussi, parce qu'il a été obligé de s'expliquer à ses coéquipiers. Ça devait pas être facile. Hein? Puis je sais de sources sûres qu'ils l'ont challengé. Là. Dans le vestiaire, ça a pas été un free pass pour lui. Là. Il a fallu qu'il réponde aux questions pour vrai. Puis il y avait du scepticisme malgré ses réponses. Un peu comme nous tous, d'ailleurs, parce que c'est dur à comprendre. Mais bon, au moins, c'est réglé.
Kev, tant qu'à t'avoir, on va parler du Canadien. T'es excitant ce qu'on vit cette année?
Ben oui, je ne suis pas un partisan du Canadien, mais j'aime voir le Canadien gagner parce que...
T'es pas un partisan du Canadien?
Non, je suis pas un partisan du Canadien, puis je suis pas un partisan d'aucune équipe. Honnêtement, je suis un partisan de hockey. J'aime quand le Canadien gagne parce que ça ajoute de l'ambiance, de l'atmosphère, puis un peu de positif dans la province, là, tu sais. Mais c'est le fun d'avoir. Puis moi, j'ai jamais été aussi optimiste envers cette organisation-là depuis que je suis hockey. Là, tu sais, il y a des les Lane Hudson, Ivan Demidov, Cole Caulfield, Nick Suzuki, c'est le fun d'avoir. Puis je pense que les gens peuvent être, pour une fois, là, tu sais, il y a beaucoup d'optimisme. On parle de hype, là. Il y en a à toutes les années, il y a trop de hype, je trouvais, sur tous les joueurs. Là. Chaque joueur était supposé être un futur joueur de premier trio, mais là, il y en a beaucoup des vrais futurs vedettes, je pense, puis c'est positif.
Mais quand même, Kevin Dubé du Journal de Québec, t'as écrit un texte cette semaine pour briser le party en nous parlant de la cadence actuelle du CH qui va être difficile à maintenir, puis ça, on s'en doute par simple logique. Là, je veux dire, tu regardes le début de saison, puis c'est pas vrai qu'on va finir avec au-dessus de 60 victoires, là, alors que mathématiquement, c'est ça qui arriverait cette année. Mais tu as utilisé une façon, justement, je parle de mathématiques, très mathématiques avec Sports Logic, c'est ça, hein, de stats avancées.
Mm-hmm. Oui, c'est ça, exact. C'est nos partenaires au journal de Sports Logic. Je leur ai demandé, en fait, pouvez-vous me dire si la production, si le rythme que le Canadien a en ce moment est soutenable à long terme? Puis ce qu'ils ont utilisé comme outil statistique pour le faire, c'est qu'ils ont pris le différentiel. Donc le différentiel, c'est le nombre de buts que tu marques moins le nombre de buts contre. Ça te donne un chiffre, plus ou moins. Puis après ça, le nombre de buts... ils ont fait la même chose, mais avec le nombre de buts attendus. Ça, le nombre de buts attendus, c'est une statistique qui comptabilise les chances de marquer que tu as, simplement, là, le, non, les chances de marquer que tu as en prenant les tirs d'où proviennent les lancers, puis le nombre de buts que tu aurais dû marquer selon les chances de marquer que tu as, puis à l'inverse, ceux que tu aurais dû donner, considérant le nombre de chances que tu as donné. Là, c'est pas exactement ça, mais c'est grossièrement, c'est ça. Et le Canadien a un différentiel beaucoup, beaucoup meilleur en temps en réel que ce que les chiffres démontrent. Ce qui veut dire que la production actuelle du Canadien n'est pas soutenable à long terme. On s'en doutait. Ce que ça veut dire, c'est que je sais que le Canadien produit énormément d'avantages numériques présentement.
Ça peut pas rester.
C'est pas une cadence qui peut être soutenue. La production du premier trio est presque égale en avantage numérique qu'à 5 contre 5, ce qui, ça non plus, n'est pas soutenable à long terme. T'sais, ça veut-tu dire que le Canadien va finir, va connaître une séquence de 12 défaites puis va rater les séries? C'est pas ça. C'est juste qu'en ce moment, le Canadien se dirige vers une saison de 59-60 victoires.
Et Jakub Dobesh s'enlignerait pour pas perdre une game cette année.
Ouais, c'est ça.
Et autant je le trouve très, très bon, autant je pense pas que ce soit possible.
T'sais, la régression va inévitablement arriver. Puis, je veux dire, il y a des choses qui se calculent pas en statistiques, là. Puis la résilience en est une. Puis l'équipe est extrêmement résiliente depuis le début de l'année. Tu sais, le nombre de matchs, j'ai pas les chiffres, mais le nombre de matchs qui sont venus après avoir bousillé une avance.
Au point où lundi, mardi, en tout cas, la game contre les Flyers,
ouais.
À 0-3, dans tous mes groupes de discussion de hockey dans lesquels je jase, en majorité, le monde se disait qu'on allait remonter.
Ah ouais.
Tu sais, puis il n'y avait même pas d'inquiétude. Hey, c'est en première période, c'est contre les Flyers. Puis c'est arrivé quand même. Ah ouais.
Ben c'est ça. C'est juste que là, le Canadien joue avec le feu beaucoup. Il faut juste pas qu'attendre que le toit du Centre Bell pogne en feu. Il faut qu'à un moment donné, faut que tu réussisses à conserver tes avances, oui, mais aussi à avoir des bons débuts de match, puis à pas produire seulement un avantage numérique. Mais le positif, comme je le disais, c'est qu'ils ont les éléments dans l'alignement pour le faire. Là. C'est une équipe qui est capable de marquer à 5 contre 5. Là. Ils ont tellement de talent qu'ils sont capables de le faire. Maintenant, il faut qu'ils le fassent puis, sur une base régulière. Puis, en même temps, faut pas se leurrer non plus. C'est une équipe qui est encore très jeune et qui n'a pas beaucoup d'expérience. T'sais, l'année passée, ils ont eu une ronde de série. Il y a plein de gars là-dedans qui c'était leur première ronde en carrière. Fait que ça va venir. Là. Ça fait partie de l'apprentissage, mais je pense pas qu'il faut s'attendre à ce que le Canadien finisse premier dans l'Est. Quand il va avoir 82 matchs de... 82 ou 84 cette année?
C'est 82 cette année, c'est à partir
84,
de l'an prochain.
Quand il va avoir 82 matchs de jouer.
Avant de te laisser aller, Kev Dubé, pas le choix de te demander ton 2 centimes sur la controverse de gardien de but à Montréal. Qu'est-ce qui va se passer avec ça?
Moi, j'ai trouvé qu'on est... Je pense pas qu'il y a eu de controverse. Là. Il y avait un débat, puis je pense que c'est sain d'avoir un débat. Est-ce qu'on y va avec Montembeau ou est-ce qu'on y va avec Dobesh? Dobesh n'a rien fait pour qu'on l'enlève du filet. Mais moi, dans ma tête à moi, le numéro un jusqu'à preuve du contraire, ça demeure Samuel Montembeau.
Mais on a eu des preuves du contraire.
Ben oui, t'as raison, mais après 12 matchs, pour moi, c'est pas un échantillon assez. T'sais, comme je pense qu'on s'en est déjà parlé, si après 40 matchs de saison, Dobesh continue de dominer comme ça, puis que Montembeau n'est pas capable de redresser la barque, là, on pourra avoir un vrai débat puis une vraie controverse, entre guillemets. Pour l'instant, pour moi, il n'y en a pas. Il y en a un qui connaît un meilleur début de saison que l'autre. Tant mieux. Mais je pense qu'à long terme, si tu veux gagner, c'est avec Samuel Montembeau que tu vas le faire. C'est le gars qui t'a sorti de la boîte l'année passée aussi. Là. Puis c'est un gars qui était avec Team Canada.
Mais oui, puis non, Dobesh, quand il est arrivé l'année passée, lui aussi, il t'a sorti de la mat. Sans Dobesh, l'année passée, on ne faisait pas les séries non
mais
plus.
Mais combien de gardiens auxiliaires t'as vu être bon comme gardien auxiliaire, puis quand il devenait gardien partant, puis qu'il avait la charge de travail d'un partant, c'était plus la même chose. Là, je pense qu'en ce moment, c'est le meilleur des mondes. T'as ton gardien numéro un qui cherche, puis en même temps, puis de l'autre côté, t'as ton auxiliaire qui connaît peut-être ses meilleurs moments de la saison. Là. Probablement, ça va être dur à topper là, ce que Dobesh fait en ce moment.
Ça va être dur pour
cette cadence-là.
Ça va être dur pour Montembeau d'être aussi mauvais aussi.
Il est 100% d'accord. Il n'a pas été bon du tout. Probablement le pire qu'il a été depuis qu'il a joint le Canadien de Montréal. Puis, tu sais, il n'a pas eu un bon début. Puis, tu sais, je veux dire, il a été bon contre les Flyers, mais c'était quand même pas à 100% convaincant non plus. On a l'impression que des fois, il se battait quand même avec la rondelle.
Ben, puis, on dit qu'il a été bon. Il a été bon après avoir accordé 3 buts sur 5 tirs en début de match. Là.
Puis ça, après ça, le débat, c'est est-ce qu'il était vraiment coupable des 3... Est-ce que c'est de sa faute,
pas.
Les 3 buts? Bon,
non.
C'est ça. Je pense qu'il y a un peu de malchance là-dedans, mais ça reste quand même la pire façon de commencer un match quand t'es un gardien de but qui se cherche. Mais moi, je continue de croire que à long terme, ça va être Montembeau, le gardien numéro 1. Mais comme je te dis, on peut se reparler si tu veux. Regarde, on peut se prendre un rendez-vous. On est le 6 novembre. On peut se parler le 6 janvier au retour des fêtes. Okay. Puis si la situation des gardiens est la même, ben là, je pourrais peut-être que je vais changer mon fusil d'épaule. Je suis un peu orgueilleux, là, mais.
Moi, je suis pas orgueilleux pantoute.
Non,
qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Kev Dubé du Journal de Québec, merci beaucoup. Puis on se reparle le 6 janvier.
Yes, toujours un plaisir.
Salut. Au retour, Audrey Pinchot s'amène pour l'Open Mic. 11h03 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Et quand on est au début de l'heure de 11h, ce que ça veut dire, c'est que c'est l'heure d'accueillir la pétillante Audrey Pinchot en studio.
T'es bien fin un matin, qu'est-ce qui se passe avec toi?
Ben, fallait juste que je me reprenne pour les derniers jours.
Ouais, hein, ça a été plus rough.
Ça commençait souvent rough, fait que...
En plus, c'est tellement des affaires qui se disent pas. De... Il me semble que t'as l'air fatigué. Il me semble que t'as l'air scrap un matin, voyons!
Ben là... On est honnête, on ne l'est pas.
T'as raison.
Aujourd'hui,
t'as vraiment raison.
Audrey, t'as l'air pétillante comme un 7-Up que tu viens d'ouvrir.
Wow. Ben écoute, je suis de bonne humeur. Il fait beau, ça doit aider. Hein. Souvent, la météo, à cette année, ça joue. Là.
Ouais, puis la neige s'en vient, la première neige.
Hey,
là,
j'ai hâte, là.
Moi aussi, un petit peu. Puis là, mais les nuits, par contre, plus frisquettes un petit peu. Tu sais, je voyais, je pense que c'est ce soir et cette nuit, là, moins 5 degrés. Fait que moi, quand je me lève à 3 h du matin, puis je prends ma petite
ça
marche, là, ça va commencer à me réveiller. Ça se peut, je commence à mettre mes combines de mon oncle.
Mais ce que je trouve le fun, c'est que ça... Est-ce que tu vas... Peut-être que tu comprendras pas ce que je veux dire, mais je trouve qu'à ce temps-ci de l'année, ça sent frais. Comprends-tu ce que je veux dire? T'sais, ça sent bon, ça sent frais, ça sent... Moi, j'aime quand tu fais froid. Okay. J'ai l'impression que c'est... Tu comprends pas ce que je veux dire? Je suis sûr que les auditeurs vont comprendre. Oh, 88-971-1021. L'été, là, quand tu fais 30, là, ça sent rien. Tu respires, t'as juste chaud, stannant, c'est plate. On dirait que quand l'automne arrive, quand il y a les premières neiges, les températures un peu plus froides, ça sent frais.
De quoi on parle dans l'open mic aujourd'hui, Audrey?
Ah, t'es plate! Aujourd'hui, on a un sujet que... Ben, je dis un sujet, plein de sujets, ben. En fait. On va parler du monde du travail. Et il y a une référence dans ce temps-là. C'est Annie Boilard, qui est présidente de Annie RH. On lui a déjà parlé plusieurs fois à Boulevard 102.1. Puis là, c'est comme un retour ce matin parce que Annie a décidé de prendre les sujets les plus populaires qu'elle a fait au travers les années dans différentes chroniques, différentes questions qu'elle se fait poser, puis de créer un livre avec ça. Le livre s'appelle « Le problème, c'est le boss, enfin, je pense ». C'est 40 chapitres qui abordent 40 situations frustrantes au travail. Je trouve ça super intelligent, super cocasse. Je suis allée piger dans le tas des matières, puis on va s'amuser ce matin.
Y a-tu un chapitre sur la collègue weird qui trouve que ça sent bon quand il fait un peu froid? Puis que...
Pas particulièrement, okay. Mais il y a pas mal de chapitres sur les collègues. Annie, bon matin!
Bonjour Audrey! Bonjour.
Dis-moi Annie, tu comprends ce que je veux dire quand je dis que ça sent frais?
Ah oui! Non seulement ça sent frais, mais beaucoup d'études sur le monde du travail disent qu'on gagne à mettre cet air riche en aérobiome dans nos environnements professionnels. Alors, bon. Aujourd'hui, ça pourrait être une toute autre conversation, mais il y a beaucoup de science derrière.
je savais que je disais pas n'importe quoi.
Ouais, c'est beau.
Annie, on va faire le tour de quelques sujets qui reviennent beaucoup quand on parle de milieu de travail que tu as mis dans ton livre. Mais premièrement, félicitations pour l'écriture. Puis j'ai le goût de te demander qu'est-ce qui t'a envie de mettre tout ça sur papier. C'était quoi le but? Pourquoi écrire un livre là-dessus?
Oui, bien d'abord, merci. Puis j'ai envie de nous dire, il y a un petit peu de nous autres là-dedans, de nous tous. À la fois, nos conversations que nous avons eues, Audrey, il y a des idées qui viennent de toi dans le livre, tu es citée dans le livre. Puis aussi, des réactions que les auditeurs ont faites lorsque nous avions des conversations ensemble. Ils ont posé des questions, ils ont réagi. Tout ça a inspiré plusieurs chapitres du livre. Donc, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Là, tu me disais, qu'est-ce qui a inspiré l'idée? C'est que je savais une chose, je savais que j'allais pas faire un livre où j'allais, excuse-moi, je pense que tu avais perdu, donc où j'allais parler pour les gestionnaires, comment bien gérer une équipe ou comment faire preuve de leadership. Ça, les bibliothèques sont pleines de ça, Audrey, là, on en a tous vu plein. Moi, je voulais écrire un livre pour les employés. Hein. Moi, je sais là, que les employés, souvent, ils ont des choses qui les frustrent au travail. Puis la bonne idée, tu sais, de dire à quelqu'un, ben là, lâche ta job puis trouve-en une autre. C'est pas toujours réaliste, c'est pas toujours possible. Même parfois, les employés, c'est pas ça qu'ils veulent lâcher leur job, ils veulent régler la problématique. Fait que c'est pour ça que j'ai écrit un livre pour les employés sur les irritants du quotidien. C'est ça la pensée derrière.
Qu'est-ce qui frustre les employés en 2025? Là? Qu'est-ce que tu entends le plus?
Bon, il y a beaucoup de choses, hein? 330 pages, 40 chapitres, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui frustrent les gens. Mais je nous donne des grands classiques, OK? Une des choses, Audrey, c'est mon collègue à côté de moi, qui est payé le même salaire que moi, ne fait pas sa job. Parfois, il faut que moi, je vais pallier son travail. Je l'ai dit à mon boss, puis mon boss fait rien. Hmm. Fait que là, il y a comme quelqu'un, on trouve que c'est injuste, il y a quelqu'un qui fait pas sa job, puis je trouve que c'est injuste. Ça, c'est un grand classique. Je t'en donne un autre, Audrey. Mon boss ne m'écoute pas. Tu sais, il y a quelque chose qui va pas au travail. La solution, elle m'apparaît facile, accessible. Je l'ai dit à mon boss, puis mon boss dort dessus. Il fait rien. Fait que là, il y a rien qui avance, mais là, la situation frustrante, elle, elle perdure, puis c'est moi qui dois faire face tout le temps. Après ça, cette affaire-là qui revient. Ou un autre, puis là, je pourrais t'en donner longtemps, mais un autre qui est simple, puis que je trouve que la littérature n'est pas très loquace sur ce sujet-là, c'est mon boss a des préférés dans l'équipe, comme des amis, tu sais.
Ouais.
Puis moi, je ne fais pas partie de la petite clique. Mais tu sais, j'ai somme toute une bonne relation avec mon boss, là. Je te dis pas qu'on s'entend pas bien, mais je sais qu'il y a comme des préférés. Je sais qu'il y a des gens qui savent les choses avant les autres. Puis ça me dérange. J'ai l'impression que c'est pas juste. Puis je sais pas comment faire ça parce que pas pour aller voir mon boss puis dire « J'aimerais ça que tu m'aides, que tu m'aimes autant que tu aimes les autres. » Tu sais, c'est comme ça se fait pas. Fait que comment je navigue là-dedans? Ça, là, ça en est des exemples de situations frustrantes.
Le titre du livre qui est le mot « boss » dedans, c'est pas un hasard, là.
Ben oui, c'est ça. C'est pas un hasard. T'sais, le problème, c'est le boss. Mais il y a aussi le « enfin, je pense ».
C'est ça.
Puis c'est intéressant. Tu sais, le boss, pourquoi c'est pas le boss ou la boss? Parce que, ben d'abord, on voulait pas insuffler que tous les patrons étaient nécessairement masculins. C'est pas le cas, évidemment. Puis on voulait pas non plus que les patronnes soient identifiées comme négatives. Fait que c'est pour ça que ça finit par « le problème, c'est le boss ».
C'est le boss. Moi, j'adore ça. Je trouve que ça nous parle un peu plus même dans la façon de le dire. Tu parles de relations avec le patron, puis dans les chapitres que tu as, ça revient, ça. La relation, justement. Le fait qu'il y a des boss aujourd'hui qui sont amis. Je me suis déjà retrouvée dans une situation comme ça, puis c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas une bonne patronne. J'étais trop proche de mes employés, puis quand il y avait des problèmes, ça menait à des soucis, puis il y a des soucis dans la gang aussi. Quelle relation on devrait avoir avec notre patron? Parce qu'on dirait qu'en 2025, on priorise l'énergie dans une gang, on veut que tout le monde s'entende bien, mais ironiquement, ça mène à des problèmes quand il y a du sérieux à gérer.
Hey Audrey, là, ce que tu nommes, c'est tellement ça. Mais je souligne, tu sais, tu dis que je n'étais pas une bonne boss. Moi, je te dirais, si tu en as conscience, si tu le sais, c'est déjà mieux que beaucoup de monde. Tu sais. Mais effectivement. Puis là, les patrons, ils disent là-dessus, ben d'abord, les patrons sont un peu mal pris parce que sur toutes les plateformes, on leur dit, faut que tu sois proche de ton monde, faut que tu exerces un leadership de proximité. Fait que là, les boss, ils ont l'impression qu'on fait ce qu'on leur demande. Mais là, il arrive, l'humain est l'humain, puis il y a des meilleures affinités qui se développent avec certaines personnes, puis pas avec d'autres. Puis là, après, les patrons vont dire « Oui, mais ça n'a pas d'incidence sur mes décisions de gestion. T'sais, je vais pas donner les meilleures plages d'horaires de vacances à mes amis pour le temps des fêtes. Là, ça n'a pas d'incidence sur mes décisions. » Puis ça, Audrey, là, si on peut mettre les lumières là-dessus, les flashs, solliciter les auditeurs pour qu'ils nous aident pour passer le message. Le point, c'est le suivant. Boss, même si tu me dis que ça n'a pas d'incidence sur tes décisions, c'est pas grave, même si tu as raison. Voici l'histoire. C'est une question de perception.
Ouais, c'est ça.
C'est pas grave ce que tu fais. Ce qui est important, c'est ce que les employés pensent que tu fais.
Ouais.
Et si les employés pensent que tu donnes des meilleurs horaires, des meilleurs outils, des meilleurs clients, des meilleurs à des employés parce que tu as une meilleure relation avec eux, ils ont raison d'être frustrés. Fait que boss, si tu veux prendre ton salaire de boss, mets tes culottes de patron. Puis, sois équitable dans ton temps, même ton temps informel que tu partages avec tes équipes. Mais bravo Audrey, tu sais, toi, tu as dit spontanément, moi, je le sentais, je le savais, il y avait quelque chose qui allait pas. Fait que déjà, tu sais, il y a cette conscience-là, fait que bravo.
Ah, mais moi, je salue les patrons qui sont capables de naviguer là-dedans parce que, honnêtement, moi, ça n'a pas fait pour moi. J'ai réalisé que si je me retrouvais en gestion à nouveau, il allait falloir que je garde un mur un peu entre ma relation avec les employés parce que je suis trop friendly. Je ne suis pas faite pour ça. C'est tout ou c'est rien, tu sais. Dans les chapitres, il y en a un dans la gang qui tape ses nerfs à tout le monde, boss. Peux-tu faire quelque chose? Ça arrive souvent, ça. Où tout le monde a l'impression qu'il y a une pomme pourrite dans l'équipe, là, puis que ça irait vraiment mieux sans cette personne-là, mais le patron, Christy, il a la garde, la pomme pourrite.
Ben, exactement. Fait que, patron, cette personne-là tombe sur les nerfs de tout le monde. Ça peut être pour différentes raisons. Tu sais, Audrey, je sais pas si tu as déjà connu ça, mais tu sais, le collègue qui est éternellement fatigué. Tu sais, tu rentres le lundi matin, comment ça va? Oh, je suis fatigué.
Tout le temps brûlé.
Il est tout le temps brûlé, tu sais. Puis là, au début, c'est comme une façon de s'exprimer. Puis des fois, c'est peut-être un petit peu une façon simple d'avoir des conversations, puis aussi une façon d'attirer l'attention. Mais là, les collègues finissent par se demander, « Ouais, mais s'il est fatigué tant que ça, là... » Tu sais, par exemple, mon collègue devait faire une partie du projet. Là, ce que je lui demande, est-ce que je fais un suivi? Est-ce que je devrais m'en charger? Fait que là, les gens sont mal à l'aise parce qu'ils ne veulent pas en mettre sur les épaules d'un collègue qui semblerait peut-être qu'il ne va pas bien. Mais le boss ne fait rien, tu sais. Puis il n'y a personne qui s'interroge à savoir, c'est-tu une façon de s'exprimer, de dire je suis fatiguée? Ou il y a anguille sous roche, puis la personne, elle va vraiment pas bien. Alors ça, effectivement, là, tu as raison. Puis c'est au patron de faire des démarches. Puis parfois, les équipes aussi peuvent faire des choses. Puis il y a des questions à poser pour aller comprendre qu'est-ce que tu veux me dire, collègue, quand tu me dis ça. Mais tu sais, la pomme pourrie. Bon, des gens fatigués, c'est pas une pomme pourrie, mais des fois, c'est ça qui tombe sur les nerfs des gens. Il y a l'autre qui va avec, c'est les gens qui sont toujours dans le jus. Tu sais, tu veux demander quelque chose à ton collègue, mais il est tout le temps débordé. Fait que là, boss, allume, tu sais. Je comprends qu'il y a des gens qui sont occupés à l'occasion, mais là, 365 jours par année, il y a peut-être quelque chose qui va moins bien.
Oui.
L'autre élément dans la pomme pourrie, c'est le collègue qui est incompétent. Le collègue incompétent qui ne fait pas son travail. Mm. Puis ça, des fois, c'est une longue réflexion parce qu'il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Puis il faut accepter aussi des fois comme employé qu'on ne sait pas tout ce qui se passe. Tu sais, Audrey, tu as été patronne, tu le disais tantôt. Des fois, les patrons initient des démarches avec des employés en sous-performance, soit pour recadrer la performance ou parfois c'est même pour avancer sur des mesures disciplinaires qui pourraient mettre fin au lien d'emploi. Mais ça, c'est confidentiel. Fait que le patron le sait, l'employé qui est dans l'étau un peu serré le sait, mais les collègues, eux, ne le voient pas. Puis des fois, ça cause des énormes frustrations et des incompréhensions. Pourquoi le boss fait rien? Puis on réalise pas que le boss fait peut-être quelque chose, mais il a pas le droit de nous le dire. Puis l'employé, là, tu sais, la pomme pourrie, comme tu disais tantôt, Paul, ça ne veut pas dire qu'il va se promener partout pour raconter la vraie histoire à tout le monde. Des fois, il va se garder une petite gêne. Il va raconter l'histoire qui lui plaît bien de raconter. Fait que ça, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est peut-être en train de se passer que je ne vois pas. Et ultimement, si vraiment rien ne se fait, puis que le patron veut vraiment supporter l'employé qui est incompétent, bien, comment je me protège? Parce que là, Audrey, ça devient la décision du boss. Ça ne devient plus ma responsabilité de collègue. Même si je suis syndiquée dans la même unité d'accréditation que l'employé, il va falloir que je me protège. Je ne pourrai pas toujours pallier le travail de la personne qui ne fait pas sa job parce que le patron ne le verra jamais. Personne ne fera jamais rien. Mais moi, je vais y laisser mon énergie puis ma santé.
Bien, c'est ça l'affaire. C'est que souvent, quand je parle de pommes pourries, ou je devrais dire la framboise. Tu sais, quand tu vas à l'épicerie, il y a une framboise pourrie dans le pot. Ça prend une journée que toutes les autres sont pleines de mousse blanche, là. J'ai comme l'impression que malheureusement, si le boss décide de garder cet employé-là, c'est plate à dire, mais généralement, ça va affecter l'équipe au complet. Fait que c'est quand même dur à gérer. Fait que ça, tu le traites dans ton livre.
Hey, oui, c'est, on traite de ça. Puis on dit aux gens, tu sais... D'abord, donner une chance. On a un système légal qui fait que ça va prendre du temps pour recadrer la situation. Fait que des fois, il faut faire preuve d'un peu d'indulgence. Mais si vraiment le temps s'écoule et rien ne se fait, il faut se protéger. Fait que comment je me protège? Puis il faut redonner la responsabilité au boss.
J'ai envie qu'on parle de négociation. C'est toujours un sujet qui fait énormément jaser parce que et qu'il y a du monde qui sont bons avec ça puis et qu'il y a du monde qui sont pourris.
Moi, ma technique de négociation, c'est je dis oui.
Puis écoute, moi, je deviens sensible, je deviens émotive. C'est vraiment pourri. La première offre salariale de mon boss, est-ce que je l'accepte ou je la négocie?
C'est une excellente question, ça, Audrey. Hein? Les statistiques sont à l'effet qu'en moyenne, les gens vont accepter une première offre salariale. Mais ceux qui la négocient, plus de 60 % d'entre eux vont obtenir des meilleures conditions de travail.
Ça en dit long.
Fait que c'est intéressant, la première offre salariale. Il y a des façons, il y a un ton pour à la fois ouvrir la discussion, pas nécessairement accepter la première offre, mais ne pas prendre le risque de perdre l'offre tout court, parce qu'il faut faire attention aussi. L'enjeu, souvent dans les conditions, quand on dit on peut aller chercher de meilleures conditions, parfois c'est salarial, mais il faut aussi considérer des fois c'est autre chose, comme plus de télétravail ou des dépenses qui vont être admissibles ou plus de vacances, par exemple. C'est pas toujours des éléments qui sont monétaires, mais c'est intéressant d'ouvrir la porte avec respect, prudence, en demandant à l'employeur, est-ce que c'est la meilleure offre? Est-ce que vous avez de la flexibilité par rapport à... Puis... statistiquement, ça vaut la peine de le faire. Puis, tu sais, moi, Audrey, depuis le temps qu'on se placote, tu le sais, je suis en ressources humaines. nous, en ressources humaines, moi, je le vois sur le terrain, les gens acceptent beaucoup la première offre. Puis des fois, on avait un petit peu de marge de manœuvre qu'on n'a pas utilisée. Fait qu'effectivement, c'est intéressant de se poser cette question-là.
L'importance de la transparence salariale. Parce que souvent, on dirait que dans des contrats que tu vas signer au travail, on demande d'être... j'ai pas le mot qui me vient, là. On demande de pas parler de salaire, en gros. On demande une confidentialité, voilà. Mais on va se le dire, les employés se parlent. C'est pas une mauvaise chose, je pense. Mais comment c'est traité, oui. Ça? Je pense que les boss sont pas innocents. Les boss le savent, là.
Il faut que les patrons le sachent. Audrey, t'as raison. On est en 2025 et les employés vont se parler de leur salaire. Et les statistiques sont assez rigolotes quand on regarde, par exemple, les jeunes générations qui sont près de 80% à dire « c'est normal de parler de son salaire ». Je vois même pas pourquoi je me garderais une petite gêne par rapport à ça. Alors, certes, il y a les employés, comme tu disais, Audrey, qui sont couverts par des ententes de confidentialité qui, eux, ne peuvent pas. Mais en général, ce sont de grandes exceptions. La majorité des employés, soit sont syndiqués, couverts par une convention collective et tout le monde connaît les échelons salariales, donc là, il n'y a pas de surprise, ou encore, il y a un contrat d'emploi individuel et là, il n'y a pas de telle clause. Et là, c'est ça l'histoire. Avant, les gestionnaires, tu sais, les gens ne parlaient pas de leur salaire, mais maintenant, tout le monde partage leurs informations. Et ça donne droit à de nouveaux types de conversations. Tu sais, par exemple, les patrons étaient bien habitués. Avant, il y avait des conversations qui ressemblaient à « Boss, je sais que Paul est payé, par exemple, plus que moi. Je trouve que c'est pas juste. Je voudrais qu'on augmente mon salaire. » Bon, ça, c'est un bon vieux classique. Mais en 2025, ce qu'on voit comme conversation, c'est aussi « Boss, je sais que je gagne plus que Paul et je trouve que c'est pas juste. Je suis inconfortable avec ça. » Je souhaite qu'on augmente le salaire de Paul.
Ah ouais.
Ça, c'est des nouvelles conversations dans les bureaux de travail. Puis souvent, les patrons sont pris de surprise.
Ben oui.
Ils ne s'attendaient pas à ça. Oui, puis, mais il faut en parler. Puis il faut que les patrons prennent pour acquis que les gens vont parler de leur salaire entre eux. Puis moi, je trouve que c'est bien, Audrey. C'est bien parce que, je dis Audrey, mais toute ton équipe, c'est que ça force les patrons à être plus objectifs, transparents. Tu sais, boss, il faut que tu saches qu'est-ce qui vaut quoi? Puis qu'est-ce qui va me permettre, moi, comme employé, d'accroître mon salaire? C'est quoi les indicateurs que je dois atteindre? C'est quoi que je dois faire? Ça force à avoir des communications plus transparentes. Puis ça permet aux employés qui souhaitent déployer des efforts pour soit acquérir de nouvelles connaissances ou faire se rendre disponible ou peu importe. Mais ceux qui veulent le faire, ils peuvent le faire. C'est plus accessible quand ils savent c'est quoi les règles du jeu.
Des fois, on a l'impression que justement, pour être bien payé ou quand on a un bon salaire, on se doit d'en faire plus. Hein? Et il y a un chapitre dans ton livre qui s'intitule « Boss, peux-tu arrêter de m'achaler avec la job le soir puis les fins de semaine? » Le fameux droit à la déconnexion, on en parle tellement. Je pense qu'il y a des milieux où c'est pas mal plus facile que d'autres, de base. Mais comment on navigue à travers ça? Parce que c'est dur de faire aller ses droits. Tu sais, je te donne l'exemple, Annie, nous, dans notre job, on travaille en réalité un peu 24/7 parce que tout ce qu'on vit devient un peu un sujet. Faut avoir vu la game d'hier, faut avoir vu telle série qui était à mode, faut être allé à tel événement. T'sais, on est un peu toujours dans le travail malgré nous. Puis, on travaille beaucoup avec le téléphone, le messenger, c'est au bout des doigts. Fait que c'est dur de mettre des limites. Mais une personne qui voudrait en mettre aurait le droit. Comment on navigue?
Ouais, et ça, Audrey, là, juste ça, ça serait tellement une grande conversation parce que c'est pas juste pour l'employé, là. Là, ça devient aussi pour l'employeur. Parce qu'on sait que les absences pour des fins de santé mentale s'accroît au Québec. Et on sait aussi, notamment avec des données américaines, que les employés qui ont une rémunération annuelle, pas à l'heure, mais annuelle, statistiquement, les journées de travail s'allongent présentement. Puis ça devient une réelle préoccupation. Alors, tout le monde gagne à parler de déconnexion. Présentement, souvent, c'est les employeurs qui vont initier la discussion. C'est-à-dire que les gestionnaires vont avoir une conversation d'équipe. Hey, nous, comment on veut définir ça, la déconnexion pour nous? Et une conversation individuelle avec les gens. Puis, la marche à suivre au début, c'est de savoir, ben, c'est quoi, nous, nos heures d'ouverture? C'est quoi les heures où on est disponible? Puis, c'est quoi les heures où on est indisponible pour le travail? Puis, quand ça, c'est bien clarifié, évidemment, il y aura toujours des cas d'urgence, mais quand ça, c'est clarifié, déjà, ça l'aide. Et ça l'aide tout le monde. Puis là, tu sais, Audrey, je parle des cas d'urgence, là. Mais tu sais, le boss qui se dit, « Oh, j'ai eu une idée samedi matin, j'ai eu peur de l'oublier, fait que je t'ai envoyé un courriel.
Ouais. »
c'est pas ça une urgence. On s'entend, il faut la définir, c'est quoi une urgence. Typiquement, une urgence, c'est que ça l'implique soit la qualité du service qui est offert à des clients, la relation d'employé, ça concerne un employé, ou la dégradation de matériel. J'insiste sur le mot dégradation de matériel. Tu sais, il y a quelque chose qui est tombé par terre puis qui est brisé. Ouais. Ben là, il est brisé puis il est par terre. Là. Il ne tombera pas plus bas. Là. Est-ce que ça vaut la peine de déranger un employé pour ça? T'sais, si ça ne peut pas se dégrader davantage, c'est pas une urgence.
Puis,
alors,
Vas-y.
Excusez, pouvez-vous répéter?
Ah, j'ai juste dit de continuer.
Ah, bon, pardonne-moi. Fait que, donc, c'est ça, c'est important d'en parler. Puis la responsabilité, certes, les employés peuvent lever la main puis dire « Hey, boss, est-ce qu'on peut se parler de déconnexion? » Mais aussi, surtout, c'est l'employeur qui doit initier la conversation. Nous, au Canada, au Québec, on n'a pas de législation sur le sujet, mais nos voisins en Ontario ont une législation qui oblige les entreprises à avoir cette conversation et de se doter d'une politique. Fait que c'est pour ça, tu sais, nous, on n'en a pas, mais on sent un petit peu de chaleur, là. Tu sais, il faut commencer à s'y intéresser. Puis dans le monde, c'est un très grand sujet de conversation. Fait que, oui, au Québec, il faut avoir ces conversations-là aussi.
Puis en même temps, ce qui est malsain, c'est que, tu sais, je me mets à la place d'un employeur. C'est sûr que je vais préférer l'employé qui a tendance à pas l'utiliser, son droit à la connexion, puis qui a tendance à me répondre quand il est pas dans ses heures de travail. Puis dans le sens inverse, moi, en tant qu'employé, ben il y a une certaine pression par rapport à ça. Je me dis, ouais, ben si c'est pas moi qui a fait ce job-là hors des heures de travail, ben ça va être quelqu'un d'autre. Fait que là, l'autre va être plus le préféré de l'employeur que moi. Il y a un genre de compétition qui se crée. Ça aussi, c'est très toxique.
Oui, puis effectivement. Puis l'idée, c'est de voir, tu sais, il y a des gens ça les importune pas d'avoir des appels. Puis il y a des gens que ça va les importuner. Puis il y a des gens pour qui, à certains moments, oui, à certains moments, non. Fait que je comprends ce que tu nommes. Tu dis, moi, je vais être désavantagée si j'utilise ce droit à la déconnexion. Là, présentement, c'est pas un droit légal, mais disons un droit moral à la déconnexion par rapport aux autres. Mais c'est pour ça, tantôt, qu'on disait, on va avoir une conversation d'équipe. Fait que là, on va se doter de règles d'équipe. Fait que, tu sais, boss, le samedi matin, quand tu te pognes une bulle au cerveau, là, c'est personne à qui t'écris. T'sais, tu peux écrire ton courriel, mais programme-le. Ni pour celui qui ça dérange pas, ni pour celui à qui ça dérange. Fait que cette idée d'avoir une conversation conjointe, tout le monde ensemble, ça aide à réduire ces biais-là.
Il y a aussi des techniques. T'sais. Nous, ici, ce que je vois beaucoup, là, c'est sûr qu'en radio, il y a plusieurs corps de métier dans une station de radio. Là. Mais ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a des départements qui vont se dire, OK, ben quand c'est de la job et c'est urgent, utilise Teams. Moi, il est désactivé les soirs pour la fin de semaine. Fait que je vais voir ça, mais que je rentre demain matin, puis aucune chance que ça ne dérange. Si c'est urgent, ben texte-moi ou utilise Messenger. Il y en a que ça va être avec le courriel. Moi, mes courriels là, de job la fin de semaine, j'y regarde pas.
C'est vrai?
Fait que, ben, écoute, ça va arriver des fois quand j'ai rien à faire que par la petite pression, j'ai le FOMO, le Fear of Missing Out.
Moi, c'est
là.
Que j'ai une notification, fait que
ben, moi,
c'est
j'ai
sûr
éteint.
Que... Ouais.
Mais tu vois, sont accessibles, mais j'ai les éteint. Je me dis, si c'est urgent, on va m'appeler ou on va me texter, on va m'envoyer un messenger. Tu sais, j'essaie de faire une ligne entre les différentes plateformes. Il y en a qui vont faire ça pour s'aider, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, il faut que tu te jases parce qu'il n'y a personne qui fait de la même manière.
Oui. Puis Audrey, c'est le fun parce que derrière ton témoignage, il y a toute la responsabilisation de dire, ben moi, j'ai enlevé les notifications, puis moi, je le gère, tu sais, puis je gère mes besoins puis ma santé à moi. Puis ça, je pense que c'est vraiment l'avenir. Il faut être à l'aise de nommer ses limites, puis il faut être à l'aise de s'imposer comme ça des règles à nous-mêmes. Puis c'est ça l'avenir, c'est ça qui te parle là, présentement. Fait que merci de l'incarner, Audrey.
Mais c'est tellement difficile. Hey, Annie, j'ai envie, si tu as envie, je te lance l'invitation, mais il y a tellement, tu sais, je suis en train de regarder la table des matières de ton livre, puis il y a tellement de sujets intéressants, puis ça fait beaucoup réagir sur le Twitch puis par texto. C'est toujours des conversations qui sont intéressantes parce que, crime, on le vit tout, hein, je veux dire, on a tout une job puis on travaille tout. Fait que, si tu veux, je ferais quasiment une partie 2 bientôt, qu'on puisse aller piger dans d'autres sujets puis éclaircir peut-être d'autres questions que tu traites dans le livre que tu as écrit.
Avec grand plaisir. Toujours un plaisir de placoter ensemble.
Annie,
comme on le disait...
Vas-y.
Non, je disais, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Derrière ça, il y a des idées de discussion, de conversation, puis des auditeurs. Alors, oui, je pense que ça va faire très plaisir de mettre ça dans...
à l'actualité pour nos auditeurs.
Là, Annie, le livre est disponible où en ce moment? Mettons qu'il y a des gens qui nous écoutent puis ont envie de se le procurer, là.
Donc, le titre, c'est « Le problème, c'est le boss ». Enfin, je pense, entre parenthèses. Il est disponible dans toutes les librairies, souvent Renaud-Bray, très accessible chez Renaud-Bray, en ligne ou en librairie. Mais peu importe, la librairie est proche de chez vous, là, il devrait être disponible puis il est toujours disponible en ligne.
Génial. Un gros merci encore, Annie. Puis écoute, on s'écrit puis on recédule ça dans les prochaines semaines.
Avec grand plaisir. Bonne semaine à vous deux.
Bonne journée. Salut. Annie Boileur, qui est présidente de Annie RH, on a fait une couple de chroniques avec elle. On a jasé différents sujets. Puis chaque fois, c'est des sujets qui font placoter, veut pas, parce que...
Ça touche pas mal tout le monde.
C'est ça. Tu sais, des fois, tu prends un sujet en onde puis tu te dis, bon, ben ça va peut-être toucher une certaine partie des gens, mais une job, on en a toute une. Puis je regardais la table des matières, puis vous rappelez que c'est 40 chapitres, 40 situations frustrantes au travail. Puis le but, c'est de démystifier puis de parler à l'employé. Parce que c'est vrai que des livres pour les boss, il y en existe un puis un autre. Mais de savoir comment agir comme employé, c'est un peu plus difficile des fois. Fait que je trouve l'angle vraiment, vraiment intéressant. Comment vous avez trouvé ça? 88-971-1021, puis assurément, on va se faire une partie 2.
Oh oui, merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup à Annie aussi. Au retour, Pascal CV vient faire son petit tour et je vous fais aussi entendre quelques minutes des meilleurs moments de notre entrevue de ce matin avec Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec. On parle entre autres des élus à tous les niveaux, à tous les paliers municipal, provincial, fédéral qui sautent la clôture pour passer d'un parti à l'autre. Fait que vous écoutez le Point de Max à Boulevard, puis il est 11h30, puis on a bien du fun. Le Point de Max. Avant de passer aux extraits que j'ai préparés de notre entrevue de ce matin avec Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, je dois vous parler de cette nouvelle qui est tombée dans la dernière heure, un petit peu plus. Un décès tragique dans la NFL chez les Cowboys de Dallas, l'ailier défensif de 24 ans, Marshawn Kneeland, qui a perdu la vie. On n'a pas encore d'informations sur les circonstances de tout ça. Un jeune de 24 ans qui jouait activement cette saison a même... marqué un toucher défensif lundi soir au Monday Night Football entre les Cowboys et les Cardinals de l'Arizona après un botté de dégagement bloqué. 24 ans, Marshawn Kneeland, choix de deuxième ronde des Cowboys en 2024 qui a perdu la vie. Comme je vous dis, on n'a pas encore les informations, mais toujours terrible de voir un sportif comme ça en shape qui perd la vie. Donc, nos pensées à tout le monde touché par cette nouvelle-là, le décès du joueur défensif des Cowboys de Dallas, Marshawn Kneeland, à l'âge de 24 ans. C'est un dossier qui est chaud cette semaine, les élus qui changent de camp. On a Mme Poulet au provincial qui avait approché, semble-t-il, le Parti libéral du Québec alors qu'elle était de la coalition Avenir Québec. Puis ça, ben, quand François Legault l'a su, ben, il l'a mis dehors de la CAQ alors qu'elle-même voulait quitter quelques heures avant. Là, finalement, c'était comme une game de qui va laisser l'autre en premier. Puis ça a été François Legault. Mais c'est aussi un sujet au fédéral. Alors qu'il y a un élu des conservateurs qui est passé du côté du Parti libéral du Canada, et il pourrait y en avoir d'autres. Au municipal, on l'a vu à Québec aussi dans les dernières années. Qu'on a jasé d'un peu de tout ça, entre autres, avec une longue entrevue ce matin avec Éric Duhaime, un genre de 35-40 minutes. Et là, c'est un extrait de quelques minutes que j'ai sorti pour vous sur les fameux transfuges.
Quand t'es un député, puis t'es plus...
L'actu du jour avec une touche de la bouche.
11h46 minutes dans le Point de Max, puis depuis le début du show, j'ai pas encore eu l'occasion de vous parler d'une belle nouvelle musicale qui est sortie à 10h. Journey, tournée d'adieu, qui va s'arrêter au Centre Vidéotron le 12 mars prochain. Just a small town girl. Est-ce que je t'excite le poil de jambe, Pascal CV?
Si j'en avais, je te dirais que oui. Parce que c'est un groupe mythique.
Ben oui.
Puis là, il est de passage près de chez nous.
Le 12 mars, ben pile au Centre Vidéotron. Pour une fois, Québec n'est pas oublié.
Est-ce qu'on est dans les premières dates, mon ami?
Quand même, oui. Ça commence du côté de Hershey en Pennsylvanie. Il y a Pittsburgh, Washington, Trenton au New Jersey. Puis après ça, il y a un petit bout canadien avec Ottawa, Hamilton, Montréal et Ville de Québec.
Et Ville de Québec.
Fait que, puis c'est une grosse, il y a énormément de dates. Ça commence le 28 février, ça se termine le 2 juillet, puis c'est une gigantesque tournée d'adieu nord-américaine pour Journey.
Montréal n'est pas épargné?
Montréal est le soir avant nous autres. De quoi tu nous parlais ce matin, Pascal?
J'ai fait une petite recherche personnelle parce que je me demandais, Colin, tu sais, on dit qu'en politique, on ne parle pas de nos priorités ou encore on va le faire en campagne électorale quand on voit que les sondages sont négatifs. Mm-hmm. De quoi vous avez parlé cette année? Vous avez cherché quoi sur Google? Quoi vos sujets favoris de l'heure lorsque vous étiez chez vous? Parce qu'au bureau où vous travaillez, j'en conçois là, que vous êtes là pour travailler, non? Oui. Toujours très surprise d'apprendre que vous faites d'autres choses quand vient un palmarès de ce que vous faites au bureau, là. Mais ça, c'est, ça vous appartient vraiment en passant. Hein? Et puis, j'ai trouvé ce que les gens souhaitaient le plus savoir cette année. Je suis honnêtement très surprise. Je ne suis pas dans ce que vous cherchez, mais pas
C'est ça, est-ce que c'est à l'échelle québécoise?
À l'échelle mondiale.
OK. Fait qu'il n'y aura pas le tramway de Québec, là.
Il n'y a pas tramway de Québec. Je voulais vraiment qu'on sorte de ces affaires-là. Je pense que vous m'en remerciez.
Oui.
Ben, écoutez, c'est vraiment, ça fait plaisir. Et les sujets et les plateformes les plus populaires. OK, on peut s'attendre à ce que YouTube soit populaire. C'est vraiment la plateforme la plus populaire encore dans ce monde. On n'a pas perdu de temps avec YouTube pour se renouveler et être capable d'aller rechercher une nouvelle clientèle dans les 15 dernières années. On a vraiment réussi à se replacer là, en tête de file. Amazon, on n'est pas surpris. Je pense que tout le monde consomme sur Amazon maintenant, au grand nombre de plusieurs. Facebook est encore très utilisé. Probablement par le mélange des générations, et Gmail, qui reste dans les recherches récurrentes et les services et plateformes les plus importantes dans le monde.
Il vient-tu d'avoir un tremblement de terre ou tu penses que c'était juste dans la bâtisse?
Moi aussi, je l'ai senti, mais j'ai fait comme si rien n'était.
Ben, ça ressemblait à un tremblement de terre.
C'est quelqu'un qui a senti.
C'est peut-être juste quelqu'un qui passait avec un chariot quelque part. Mais bref, je voulais l'aborder au cas où on était les premiers sa nouvelle.
OK, parfait. Alors, ce sera.
Poursuivons.
Ce sera fait. Actualité et personnalité. Qui a été la personne la plus recherchée en 2025 dans le monde, mon ami?
Dans le monde? Donald Trump.
Exactement. Oui, en raison de l'actualité et des discussions mondiales, c'est certain. Les produits tendances. Les produits, en fait, là, d'usage quotidien. Vas-y dans la grande stupidité. Vas-y. Ben, c'est pas stupide, mais quand même. Là, c'est très, très, très
des produits
léger. Un des produits tendance les plus recherchés dans le monde cette année.
Produits tendance, j'ai aucune idée.
Essaie quelque chose.
Mais tendance, genre un chapeau?
C'est trop long et c'est un séchoir à cheveux. C'est une brosse séchante pour cheveux.
Un chapeau?
qui permet de sécher et coiffer. En même temps, quand on parle de tendance, je trouve ça très beau que tu penses avoir un chapeau pour ton look, Max, mais souvent, effectivement, c'est qu'est-ce qui est dans le marketing vraiment attirant? Mm. Puis la brosse séchante ramasse tout le palmarès, mon ami. Ouais.
En passant, on nous dit que c'était juste ici le tremblement de terre, le fait que poursuivons.
Probablement dans ta tête aussi.
Non, non, tu me l'as dit que tu l'avais senti.
J'ai senti quelque chose, mais c'était quoi après?
Sûrement un chariot qui
ça passait. Ça ne sera pas cherché par Google. Non. Sur Google, ben aujourd'hui, j'ai l'impression. OK, les thèmes émergents pour 2025. Durabilité. On jase de changement climatique dans le monde.
Les woke, ça!
C'est le premier
point.
Le premier thème le plus recherché, on parle même de produits durables, de pratiques de consommation plus responsables. Deuxième sujet, thème émergent. Facile?
Thème émergent?
Oui, intelligence artificielle.
Okay,
on est dans l'intelligence artificielle générative à côté, donc ça suscite un grand intérêt, mais aussi pour des préoccupations éthiques. On veut savoir, est-ce que on va se faire mener par des robots.
Ben oui.
C'est vraiment ce qui attire l'attention. Ça rend la transparence, l'utilisation éthique des sujets de recherche là, hyper, hyper populaire. L'inclusivité, c'est un autre thème émergent.
Les woke, la gauche.
Ils sont sur Google, ça veut dire, Maxime?
Ben
pas
oui,
mal, hein?
Très.
Les consommateurs recherchent des marques qui font preuve d'inclusivité dans leur publicité et leurs produits. Moi, je me demande si la publicité avec Sydney Sweeney au niveau du jeans ne fait pas partie de ça, parce que, je veux dire, ça a roulé le monde, pas à peu près, cette femme.
Le monde est allé fouiller loin pour créer une controverse avec ça, là.
Mais je pense qu'il se dit, on peut pas revenir à ce qu'on avait en standard de beauté 90-2000. Je veux dire, elle est conçue comme elle est.
Oui.
Puis elle fait vendre.
Et elle est magnifique.
Le marketing va toujours vendre.
Oui.
Sinon, recherches localisées sur mobile sont en hausse. Vous êtes particulier.
C'est-tu la pornographie?
Mes amis, on veut avoir du référencement local pour les entreprises. Donc, toi, c'est une entreprise, tu veux savoir, bon, les gens sont où, les gens autour de nous et de notre entreprise consomment quoi, est-ce qu'on va les rejoindre? Mais il semble avoir une petite affaire aussi de localiser des gens, localiser des endroits. Alors, c'est...
Là, tu vas-tu pas me parler de porn dans toute ton affaire?
Oui.
C'est vrai?
Oui.
Ils l'ont barré du passé, parce que c'était sûr que c'était dans le top de tout, là.
Et dernier terme émergent, je suis vraiment surprise, matériaux naturels. Le bois brut, matériaux bruts naturels comme le bois massif, la pierre, le béton texturé, dans les tendances notables de ce qu'on voit vraiment étant recherché. Je ne sais pas s'il y a une couple de designers intérieurs ou d'architectes qui se sont mis à googler cette année comme jamais.
Fait que
mais
ça...
On vient à l'essentiel, mais peut-être que ça va aussi avec les tarifs, l'industrie, tu sais, du bois d'œuvre et tout ça.
Fait que ça, c'est le punch final de ta chronique.
C'est le moins recherché, mais c'est dans les 5 thèmes émergents les plus populaires mondialement.
En tout cas, le point de Max finit fort en Simonac aujourd'hui. Vous n'attendiez pas à ça, hein?
Hein, le bois? Hein? Le bois, là, les matériaux bruts. Voilà.
Merci beaucoup, Pascal. Il n'y avait même pas de pornographie. Soyez là dans On en jase ce midi. Les nouvelles cibles en immigration du Québec qui ont été présentées par le ministre Roberge dans les dernières minutes. L'équipe du midi qui sera sur le dossier pour vous. Soyez à l'écoute du retour aussi avec Gab Marino qui est en compagnie des demoiselles Audrey Pinchot et Véro Bergeron. Puis nous, on se retrouve demain matin, 6h pour Marceau le matin et 10h pour le point de Max. Merci d'avoir été là. Puis il n'y a pas eu de tremblement de terre. C'était juste moi qui buzzais en studio. Bye.